Chapitre 9. L'inégalité des revenus du travail. Nous avons maintenant une assez bonne connaissance de l'évolution des inégalités de revenus et de salaires observées en France et aux États-Unis depuis le début du XXe siècle. Il nous faut à présent expliquer ces évolutions et examiner dans quelle mesure elles sont représentatives de la diversité des cas que l'on observe sur longue période dans les différents pays développés et émergents. Nous allons commencer par étudier dans le présent chapitre la dynamique de l'inégalité des revenus du travail. Comment peut-on expliquer l'explosion des inégalités salariales et la montée des supercadres aux États-Unis depuis les années 1970-1980, et plus généralement la diversité des évolutions historiques constatées dans les différents pays? Puis, nous passerons, dans les chapitres suivants, à l'évolution de la répartition de la propriété du capital. Pourquoi et comment la concentration des patrimoines a-t-elle diminué dans tous les pays, et notamment en Europe, depuis la Belle Époque? Cette question de l'émergence d'une classe moyenne patrimoniale est centrale pour notre enquête, car ce phénomène explique dans une large mesure pourquoi les inégalités de revenus ont diminué au cours de la première moitié du XXe siècle et pourquoi nous sommes passés d'une société de rentiers à une société de cadres, ou bien, dans la version la moins optimiste, d'une société de super-rentiers à une société de rentiers un peu moins extrême. L'inégalité des revenus du travail. Une course entre éducation et technologie? Pourquoi l'inégalité des revenus du travail, et en particulier l'inégalité des salaires, est-elle plus ou moins forte dans différentes sociétés et à différentes époques? La théorie la plus répandue est celle d'une course-poursuite entre l'éducation et la technologie. Disons-le d'emblée, cette théorie ne permet pas de tout expliquer. En particulier, nous verrons qu'elle ne permet pas de rendre compte de façon satisfaisante de la montée des supercadres et des inégalités salariales américaines depuis les années 1970. Mais elle contient néanmoins des éléments intéressants et importants pour expliquer certaines évolutions historiques. Nous allons donc commencer par l'exposer. La théorie repose sur deux hypothèses. La première est que le salaire d'un salarié donné est égal à sa productivité marginale, c'est-à-dire à sa contribution individuelle à la production de l'entreprise ou de l'administration dans laquelle il travaille. La seconde est que cette productivité dépend avant tout de sa qualification et de l'état de l'offre et de la demande de qualification dans la société considérée. Par exemple, dans une société où très peu de salariés ont une qualification d'ingénieur, soit une offre faible pour cette qualification, et où la technologie en vigueur demande beaucoup d'ingénieurs, soit une demande forte, alors il y a toutes les chances pour que la confrontation de cette offre faible et de cette demande forte conduise à un salaire très élevé pour les ingénieurs, par comparaison aux autres salariés, et donc à une inégalité salariale importante entre les salariés les mieux payés et les autres. Quelles que soient ses limites et sa naïveté, en pratique la productivité d'un salarié n'est pas une grandeur immuable et objective écrite sur son front, et les rapports de force entre groupes sociaux jouent souvent un rôle central pour fixer les salaires des uns et des autres. Cette théorie simple, voire simpliste, a le mérite de mettre l'accent sur deux formes sociales et économiques qui jouent de fait un rôle fondamental dans la détermination de l'inégalité des salaires, y compris dans le cadre de théories plus sophistiquées et moins naïves: l'offre et la demande de qualification. En pratique, l'offre de qualification dépend en particulier de l'état du système éducatif. Combien de personnes ont pu avoir accès à telle ou telle filière? Quelle est la qualité de ces formations? Dans quelle mesure elles ont été complétées par des expériences professionnelles adéquates, etc. Quant à la demande de qualification, elle dépend notamment de l'état des technologies disponibles pour produire les biens et services consommés dans la société considérée. Quelles que soient les autres forces en jeu, il paraît évident que ces deux éléments, l'état du système de formation d'un côté, l'état de la technologie de l'autre, jouent un rôle essentiel et au minimum influent sur les rapports de force entre les différents groupes en présence. Ces deux éléments dépendent eux-mêmes de multiples forces. Le système éducatif dépend en particulier des politiques publiques suivies dans ce domaine, des critères de sélection dans les différentes filières, du mode de financement du système et du coût des études pour les élèves et leurs familles, ou encore des possibilités de formation en cours de vie professionnelle. Le progrès technologique dépend du rythme des inventions et de leur mise en œuvre, et conduit généralement à une demande de qualification toujours plus forte et à un renouvellement permanent de leur contenu et des métiers correspondants. D'où l'idée de course-poursuite entre l'éducation et la technologie et entre groupes sociaux. Si l'offre de qualification ne progresse pas au même rythme que les besoins de la technologie, alors les groupes dont la formation n'a pas suffisamment progressé se retrouvent avec des salaires faibles et des emplois dévalorisés, et les inégalités face au travail progressent d'autant. Pour éviter que les inégalités n'augmentent, le système éducatif doit fournir des formations et des qualifications en progression suffisamment rapides. Et pour que les inégalités diminuent, l'offre de qualifications doit progresser plus vite encore, en particulier pour les groupes les moins bien formés. Prenons le cas des inégalités salariales en France. Nous avons vu que la hiérarchie des salaires a été relativement stable sur longue période. Le salaire moyen a énormément progressé depuis le début du XXe siècle, mais les écarts de salaire, par exemple entre les déciles les mieux payés et les déciles les moins bien payés, sont restés les mêmes. Comment se fait-il que ces écarts soient restés les mêmes en dépit de la démocratisation massive du système scolaire qui a eu lieu au cours du siècle écoulé? L'explication la plus naturelle est que tous les niveaux de qualification ont progressé approximativement au même rythme, si bien que les inégalités se sont simplement translatées vers le haut. Les personnes qui étaient au niveau du certificat d'études sont passées au brevet des collèges puis au bac, mais celles qui étaient au bac sont passées à bac plus 3 puis à bac plus 8. Autrement dit, la démocratisation du système scolaire n'a pas réduit les inégalités de qualification et n'a donc pas permis de réduire les inégalités de salaire. Mais si elle n'avait pas eu lieu, et si les descendants des titulaires du certificat d'études d'il y a un siècle, les trois quarts d'une génération à l'époque, étaient restés à ce niveau, alors les inégalités face au travail, et en particulier les inégalités de salaire, auraient sans nul doute beaucoup augmenté. Examinons le cas américain. Des chercheurs ont comparé de façon systématique les deux évolutions suivantes entre 1890 et 2005. D'une part, l'écart de salaire entre les diplômés de l'université et ceux qui se sont arrêtés en fin de lycée. D'autre part, le rythme de croissance du nombre de diplômés de l'université. Pour Goldin et Katz, la conclusion est sans appel. Les deux courbes suivent des évolutions inverses l'une de l'autre. En particulier, l'écart salarial, qui diminuait assez régulièrement jusqu'aux années 1970, a subitement commencé à s'élargir à partir des années 1980, précisément au moment où pour la première fois le nombre de diplômés de l'université s'est mis à stagner, ou tout du moins à croître beaucoup moins vite que par le passé. Pour les deux chercheurs, aucun doute n'est permis, l'accroissement des inégalités salariales s'explique par le fait que les États-Unis n'ont pas suffisamment investi dans l'enseignement supérieur, ou plus précisément ont laissé une grande partie de la population en dehors de l'effort de formation, en particulier du fait de droits d'inscription excessifs à la charge des familles. C'est en réinvestissant fortement dans la formation et en garantissant l'accès du plus grand nombre à l'université que l'on pourra inverser la tendance. Les enseignements des expériences françaises et américaines sont convergents et pointent dans la même direction. À long terme, la meilleure façon de réduire les inégalités face au travail et également d'accroître la productivité moyenne de la main-d'œuvre et la croissance globale de l'économie est sans aucun doute d'investir dans la formation. Si le pouvoir d'achat des salaires a été multiplié par 5 en un siècle, c'est parce que la progression des qualifications et les changements technologiques ont permis de multiplier la production par salarié par 5. Sur longue période, il est évident que les forces de l'éducation et de la technologie sont déterminantes pour la formation des salaires. De même, si les États-Unis ou la France investissaient plus fortement et plus massivement dans les formations professionnelles et supérieures de qualité et permettaient à de plus larges segments de la population d'y accéder, alors il s'agirait sans aucun doute de la politique la plus efficace, visant à augmenter les salaires bas et moyens et à diminuer la part du décile supérieur dans la masse salariale comme dans le revenu total. Tout laisse à penser que les pays scandinaves, dont nous avons noté qu'ils se caractérisaient par des inégalités salariales plus modérées qu'ailleurs, doivent en grande partie ce résultat au fait que leur système de formation est relativement égalitaire et inclusif. La question du mode de financement de l'éducation, et en particulier de la prise en charge des coûts de l'enseignement supérieur, est dans tous les pays une des questions les plus cruciales du siècle qui s'ouvre. Les données publiquement disponibles sur ces questions sont malheureusement extrêmement limitées, en particulier aux États-Unis et en France. Dans les deux pays, très attachés l'un et l'autre au rôle central de l'école et de la formation dans le processus de promotion sociale, les discours théoriques sur ces questions et sur la méritocratie tranchent singulièrement avec la réalité des origines sociales, souvent extrêmement favorisées, permettant d'accéder aux filières les plus prestigieuses. Nous y reviendrons dans la quatrième partie, chapitre 13. Les limites du modèle théorique, le rôle des institutions. L'éducation et la technologie jouent sans nul doute un rôle crucial à long terme. Ce modèle théorique, fondé sur l'idée selon laquelle le salaire est toujours parfaitement égal à la productivité marginale du salarié et dépend avant tout de sa qualification, comporte toutefois de nombreuses limites. Passons sur le fait qu'il n'est pas toujours suffisant d'investir dans la formation. Il arrive que la technologie ne sache pas utiliser les qualifications. Passons également sur le fait que ce modèle théorique, tout du moins dans son expression la plus simpliste, exprime une vision beaucoup trop instrumentale et utilitariste de la formation. De même que le secteur de la santé n'a pas pour objectif principal de fournir aux autres secteurs des travailleurs en bonne santé, celui de l'éducation n'a pas pour objectif principal de préparer à un métier dans les autres secteurs. Dans toutes les sociétés humaines, la santé et l'éducation ont une valeur en soi. Pouvoir passer des années de vie en bonne santé, pouvoir accéder à la connaissance et à la culture scientifique et artistique constituent les objectifs mêmes de la civilisation. Dans le langage de la comptabilité nationale, les dépenses de santé et d'éducation sont considérées comme une consommation, une source de bien-être en soi, et non un investissement. Il s'agit là d'une raison supplémentaire expliquant pourquoi l'expression « capital humain » pose problème. Il n'est pas interdit d'imaginer une société idéale où toutes les autres tâches seraient presque totalement automatisées, et où chacun pourrait presque entièrement se consacrer à l'éducation, la culture et la santé, pour lui-même et pour les autres, où chacun serait le professeur, l'écrivain, l'acteur, le docteur de quelqu'un d'autre. Comme nous l'avons déjà noté dans le chapitre 2, ce chemin est dans une certaine mesure déjà tracé. La croissance moderne se caractérise par un développement considérable de la part des activités éducatives, culturelles et médicales, dans les richesses produites et dans la structure de l'emploi. En attendant ce jour heureux, essayons au moins de faire des progrès dans notre compréhension des inégalités salariales. Or, de ce point de vue, plus étroit certes que le précédent, le principal problème de la théorie de la productivité marginale est tout simplement qu'elle ne permet pas de rendre compte de la diversité des évolutions historiques et des expériences internationales. Pour comprendre la dynamique des inégalités salariales, il faut introduire un rôle pour les différentes institutions et règles qui, dans toutes les sociétés, caractérisent le fonctionnement du marché du travail. Plus encore que les autres marchés, le marché du travail n'est pas une abstraction mathématique dont le fonctionnement serait entièrement déterminé par des mécanismes naturels et immuables et par d'implacables forces technologiques. C'est une construction sociale faite de règles et de compromis spécifiques. Nous avons déjà noté dans le chapitre précédent plusieurs épisodes importants de compression ou d'élargissement des hiérarchies salariales, dont il est bien difficile de rendre compte en évoquant uniquement le jeu de l'offre et de la demande pour les différents niveaux de qualification. Par exemple, la compression des inégalités salariales, qui a eu lieu en France comme aux États-Unis au cours de chacune des deux guerres mondiales, met en jeu des négociations sur des grilles salariales, dans le public comme dans le privé, et des institutions particulières créées à cet effet, comme le National War Labor Board aux États-Unis. Nous avons également remarqué le rôle central joué par les mouvements du salaire minimum pour expliquer l'évolution des inégalités salariales en France depuis 1950, avec trois sous-périodes clairement identifiées, les années 1950-1968, où le salaire minimum est peu revalorisé et où la hiérarchie salariale s'élargit. La phase 1968-1983, caractérisée par une progression très rapide du salaire minimum et une forte compression des inégalités de salaire. Et enfin, la période 1983-2012, au cours de laquelle le salaire minimum progresse relativement lentement et où la hiérarchie salariale tend à s'élargir. Il est au début de l'année 2013 de 9,43 euros l'heure. Aux États-Unis, un salaire minimum fédéral a été introduit dès 1933, soit près de 20 ans avant la France. De la même façon qu'en France, les mouvements du salaire minimum ont joué un rôle important dans l'évolution des inégalités salariales américaines. Il est frappant de constater qu'en termes de pouvoir d'achat, le niveau maximum du salaire minimum a été atteint il y a près d'un demi-siècle, en 1969, avec 1,60 dollars par heure, soit 10,10 dollars de 2013, compte tenu de l'inflation entre 1968 et 2013, à une époque où le taux de chômage était inférieur à 4%. De 1980 à 1990, sous Reagan et Bush père, le salaire minimum fédéral est resté bloqué à 3,35 dollars, d'où une baisse significative de pouvoir d'achat compte tenu de l'inflation. Puis il passe à 5,25 dollars sous Clinton dans les années 1990 et gelé à ce niveau sous Bush fils avant d'être relevé à plusieurs reprises depuis 2008 par l'administration Obama. Il est au début de l'année 2013 de 7,25 dollars l'heure, soit à peine 6 euros, c'est-à-dire un tiers plus bas que le salaire minimum français, alors même que le contraire était vrai jusqu'au début des années 1980, voire graphique 9.1. Dans son discours sur l'état de l'Union de février 2013, le président Obama a annoncé son intention de le porter aux alentours de 9 dollars l'heure au cours de la période 2013-2016. Certains États ont en 2013 un salaire minimum plus élevé que le minimum fédéral, 8 dollars en Californie et dans le Massachusetts, et jusqu'à 9,20 dollars dans l'État de Washington. Les inégalités salariales en vigueur aux États-Unis dans le bas de la distribution des salaires ont suivi de près ces évolutions. L'écart entre les 10% des salaires les plus faibles et le salaire moyen a fortement augmenté dans les années 1980, puis s'est significativement réduit dans les années 1990, avant d'augmenter de nouveau dans les années 2000. Il est intéressant de noter, cependant, que les inégalités dans le haut de la distribution, par exemple la part des 10% des salaires les plus élevés dans la masse salariale totale, n'ont pas cessé d'augmenter pendant toute cette période. De façon évidente, le salaire minimum a un impact dans le bas de la distribution et beaucoup moins dans le haut, où d'autres forces sont à l'œuvre.